Alors, c'est dans Lévitique 40 que nous tournons. On va voir la conclusion du livre et vous allez voir que c'est important. Il y a des choses à comprendre de cette conclusion. Au niveau de la symbolique qu'on a vue ce matin dans Hébreux 9. Donc, on ne va pas dans Hébreux 9. On l'a vu pour prier, mais parce que je vous rappelle que dans le mois de janvier, on a tiré des leçons sur le fait qu'on est créé pour la gloire de Dieu. On a tiré nos leçons dans le livre d'Exode. Parce que je vous rappelle qu'en 2026, à chaque mois, les thèmes vont être concernant... Disons, on va voir les vérités à travers des histoires. Voulez-vous un scoop? Voulez-vous savoir de la semaine prochaine, ça va être quoi? Une histoire que peut-être qu'il y en a deux, trois qui connaissent, un livre obscur... Un petit prophète qui s'est mis dans le trouble. Jonas. Tu penses que tu sais ça, toi?
Je l'ai dit la semaine passée.
Oh! Je pensais avoir un scoop avec ces Jonas.
T'es content, il
n'y
a aucune personne qui écoutait ton message.
Au moins, mais sais-tu quoi? Ça donne bien parce que, en tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de choses non prévues parce que il y a quatre chapitres, puis je veux faire un chapitre par message. Si Dieu le veut. Sinon, ben, je continuerai l'après-midi, je bomberai quelqu'un de l'après-midi. Puis,
À
part
moi,
oui?
Quel livre tu utilises? Parce qu'il n'y a pas de Lévitique 40 dans les livres.
Ouais, j'ai dit, c'est Exode!
Ouais, c'est ça que je pensais.
C'est parce que dans ma Bible, tu sais, la fin d'Exode, c'est Lévitique qui est là. Excusez, c'est Exode 40.
Je pensais que tu
disais. Non, c'est ça. En fait, j'avais Lévitique sous les yeux, mais c'est Exode. C'est le livre d'Exode. Pour ça qu'il y en a qui m'ont regardé bizarre, qui avait l'air un peu comme un chevreuil dans les lumières. OK. Donc, on va lire le verset 33 jusqu'à la fin. Et c'est la conclusion du livre de l'Exode. Alors, on peut lire au verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durant leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élève. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Merci Seigneur que nous sommes créés pour ta gloire, pour la gloire de demeurer avec toi. Et on va considérer les symboles, les images qui nous pointent à Jésus qui est venu habiter, demeurer parmi nous, plein de grâce et de vérité, et que maintenant aussi nous pouvons, grâce à cela, demeurer en toi. Et Seigneur, alors qu'on considère ces vérités, c'est toi, Seigneur, qui peux en amener la lumière sur nos cœurs, nous enseigner, nous convaincre. C'est toi, Seigneur, le libérateur, c'est toi, le révélateur, donc, on t'invoque. Fais ce que juste toi tu peux faire. Merci que tu veux. Tu es disposé, Seigneur. Tu es le Dieu généreux, donnant, infini. Donc, on s'en remet à toi, à ta souveraineté, à tes bons plans pour ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, créé pour la gloire de sa demeure. On vient de lire que notre cher Moïse, après toutes les instructions qui avaient été données puis tout ce qui a été exécuté comme ouvrage, a achevé l'ouvrage. Mais c'était une œuvre incomplète, on peut le dire de même, partielle, temporaire, dans l'attente de l'authentique œuvre du tabernacle, qui est Jésus lui-même, qui, je l'ai dit tantôt dans Jean 1, 14, c'est spécial, ça dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, elle a tabernaclé, elle a pris la forme comme d'une tente. D'ailleurs, ça réfère dans la Bible, aussi longtemps que nous sommes dans cette tente, ça réfère des fois dans la Bible au fait qu'on a un corps, on est sur la terre comme étant une habitation, une tente temporaire. Parce qu'on comprend qu'une tente, c'est pas quelque chose que tu fais ta vie là-dedans, à moins que tu sois un nomade, là. Mais c'est toute l'idée, justement, du fait que c'est temporaire, puis on est de passage sur cette terre, OK? Mais ici, nous avons, dans la conclusion du livre d'Exode, l'aboutissement, l'achèvement de beaucoup de travail. Et c'était enfin l'atteinte, l'accomplissement du sommet de ce qui a été pendant longtemps une œuvre pour Israël, puis dont c'est Moïse qui dirigeait tout ça. Et ça a été couronné comment? La gloire de Dieu. Non seulement on finit le travail, mais là, Dieu a donné son approbation en lui-même, en se manifestant dans cette tente. Et première leçon que je veux tirer de ça en introduction, avant qu'on développe plus en détail le message, ben, comme c'est aussi après du temps, du travail selon des spécifications précises que le fruit de verset 34 est arrivé, que la gloire de Dieu s'est manifestée, et que ça l'a produit cette habitation temporaire pour Dieu auprès de son peuple. Mais de la même manière, c'est après beaucoup de temps et beaucoup de travail de la part du Père, de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, que l'histoire de la rédemption a atteint son apogée avec la venue de Jésus, qui est venu habiter parmi nous, et qui lui a amené cette œuvre à sa completion, à son achèvement, avec la croix et la résurrection. Et donc, ici, on a, si vous voulez, un aboutissement temporaire. C'est un aboutissement qui annonce un autre aboutissement, mais Jésus, lui, quand il est allé sur la croix, qui a été enseveli, qui est mort, qui est ressuscité, ça, c'était l'œuvre parfaite, achevée une fois pour toutes. Et donc, on voit avec ça l'idée de Dieu qui demeure avec son peuple. Et ici, Dieu voulait à travers cette tente, puis plus tard le temple, qui est sur le même idée, le même modèle, demeurer avec son peuple. C'est pour ça qu'un juste de l'Ancien Testament comme David s'exprime ainsi. Connaissez-vous le psaume 27,4? C'est beau ça. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. » Et on sait qu'il sait plus ici que juste l'idée du temple terrestre. Il parlait évidemment de la présence même de Dieu. Donc il y avait ça dans l'Ancien Testament. Puis aussi, pour quiconque ici a reçu Jésus comme son sauveur, lorsqu'on reçoit Jésus comme notre sauveur personnel, ça peut être après souvent beaucoup de labeur et de langueur et d'attente pour finalement arriver à laisser entrer le roi de gloire. Hein? Il y a un chant là-dessus. « Laisse entrer le roi de gloire, donne ton cœur à Jésus. » Ça peut être aussi même pour des enfants de Dieu, sauvés par la grâce, qui finissent par sortir du désert de la sanctification par les œuvres, des efforts à essayer de plaire à Dieu dans sa propre force, pour entrer dans la Canaan de la sanctification par la foi. Tout ça, on va le considérer ensemble. Il y a un peu de tout ça dans notre message. Qu'on va ensemble voir trois gloires de l'habitation de Dieu avec son peuple. D'abord, puis là, vous n'êtes pas obligé nécessairement de tourner là, mais vous pouvez, dans Exode 25, juste trois petits versets qu'on va regarder. D'abord, les versets 8 et 9. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Je ferai le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Puis ensuite, au verset 40 du même chapitre, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Et ceci est cité dans Hébreux, chapitre 8. Ce matin, on a lu chapitre 9, mais chapitre 8 aussi parlait de ça. Et ça nous dit justement que le tabernacle dont ça parle dans Hébreux s'était fait selon le modèle que Dieu avait montré. Donc, la première gloire, c'est la gloire de l'accomplissement de sa demeure. Il avait fait tout ce que Dieu avait dit, même dans les moindres détails. En fait, il y avait toute qu'une ampleur à cette œuvre. C'était toute qu'une entreprise. Là. C'était pas n'importe quoi. Là. Je ne sais pas, vous savez, là, mais il était toute une gang de monde. Ça a duré longtemps. Puis, C'est en grand détail que Dieu avait donné cette œuvre monumentale et glorieuse. Et je dirais que des fois, les chrétiens, on peut un peu négliger, voire même mépriser l'importance de cette œuvre du tabernacle. Pourquoi? Parce que nous, on connaît l'ultime accomplissement. On sait, ouais, ça c'était temporaire puis tout. Mais pour eux autres, c'était quand même quelque chose, puis c'était unique. Il n'y a pas un peuple sur la terre qui adorait Dieu comme ça. Ça pointait à Jésus, on le sait. Mais justement, il n'y avait rien de pareil. C'était pas comme les petits idoles, puis les affaires d'offrir des fruits, des légumes, des bebelles, puis OK, ou même des personnes, là, mais bon. Donc, c'était déjà glorieux et unique. Mais comme tellement de choses dans l'Ancien Testament, spécialement celles dans la loi de Moïse, la richesse de la leçon est d'en extirper les symboles christiques. Trouver Jésus dans les Écritures, parce que Jésus l'a dit lui-même. Les Écritures rendent témoignage de moi. Puis Jésus, quand il parlait avec nos deux disciples d'Emmaüs, qui étaient tous déflaboxés, ça dit qu'il a expliqué avec les Écritures, l'Ancien Testament, ce qui le concerne lui. Et donc, on a ici, par l'accomplissement de la demeure, là, de cette demeure-là qui était temporaire dans Exode, plusieurs parallèles importants qu'on peut faire avec la vie chrétienne. OK? D'abord, l'importance des détails. On va juste en considérer deux, mais l'importance des détails. Pourquoi il y avait tant de détails, puis Dieu était si minutieux? Je ne sais pas si vous l'avez lu, là, mais le petit rond qui est en or pour mettre puis là, ça dit la sorte de bois qui va être pour porter ça, puis là, les bouclettes, puis il faut que ça soit une petite fleur, puis c'est... Je veux dire, c'est fou les détails. Puis là, les draps, ils vont être faits avec tel tissu, puis plus qu'un drap. Puis là, c'était incroyable le nombre de détails qu'il y avait là-dedans. Mais pourquoi? Mais parce que tous les détails nous pointent à Jésus-Christ, à sa personne et à son œuvre. Par exemple, il y a tout le temps plein de quatre partout, là. Quatre couleurs, puis là, OK? Mais ben Jésus, il y a quatre évangiles, ça montre les quatre facettes de la personne de Jésus puis de sa mission. OK, on n'irait pas dans les détails là-dessus, je pourrais faire plusieurs messages juste là-dessus. D'ailleurs, notre frère l'a fait déjà quand même en assez pas mal de détails. Mais le but ici de mon message, c'est pas de rentrer dans ces détails-là, mais c'est plutôt de voir la perfection de Jésus. Tout ça nous pointe au fait que tout ça nous montre l'œuvre parfaite de Jésus. Sa sainteté, comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien de ça. Il n'y a pas un païen, excusez de l'expression, pas un gentil, qui avait pensé à adorer un Dieu de cette façon-là. Même pas proche, là. Je veux dire, c'était complètement à part, et c'est Dieu, parce que c'est ça l'idée de saint, c'est autre, c'est à part. Il n'y a rien dans l'histoire qui est semblable à ce tabernacle, et évidemment, à Jésus-Christ. On en parlait, Raphaël, quand on compare Jésus à n'importe qui d'autre, il n'y a rien qui se compare. Rien, rien, rien. Ni personne, ni œuvre, rien. Et cette sainteté requiert l'exactitude. C'est pour ça qu'il y avait tous des détails, puis il y avait vraiment une exactitude là-dedans. Et là, je vais faire un parallèle ici. Pourquoi tant de détails? Pourquoi une telle exactitude, un souci du détail? Mais je pense que pour nous, puis là, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est une application importante. Si on veut vivre et expérimenter la sainteté, l'autreté d'être mis à part pour Dieu, puis de prendre part à cette œuvre de Dieu, puis là, je parle des enfants de Dieu, en bout de ligne, il faut passer par le processus de Dieu. Puis ça peut être long, laborieux, minutieux. Puis plein de petits détails, puis de détours, de façons de faire que nous, on n'aurait pas voulu. Pourquoi? Parce que c'est ses plans, c'est son œuvre, c'est lui qui décide comment que ça marche. OK? Comme là, il avait dit, tu sais, Moïse aurait pu dire, c'est bien compliqué, t'aurais pas pu faire juste une boîte en carton, puis tu sais, non, chaque chose est importante, parce que ça faisait partie, Dieu communiquait quelque chose, puis c'est pareil pour nous, Dieu, t'aurais pas pu me donner une vie plus simple, puis pourquoi c'est si compliqué, puis il y a tant de détours? Parce que Dieu, il sait ce qu'il fait, puis c'est saint, puis c'est pour lui au bout du compte, pour lui se manifester. Le processus de Dieu pour son plan, ses voies. Et savez-vous, c'était vrai pour Jésus-Christ. Dire sa vie là, sur terre, c'était quand même toute qu'une affaire. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin dans sa belle prière sacerdotale? Il dit, j'ai accompli. Comment il dit? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Dans les moindres détails, Jésus a accompli l'œuvre du Père. Et pour nous, c'est pareil. Vous savez, des fois, on se demande comment ça qu'il m'arrive telle chose. Ben d'abord, connaissez-vous l'expression « crowded to Christ » d'être contraint à arriver vers ce point culminant d'arriver à Jésus? N'est-ce pas comme ça qu'on a connu Jésus pour d'abord notre salut? Ou est-ce que vraiment toutes les choses arrivaient puis ça nous amène là? Puis c'est vrai aussi pour la sanctification. Est-ce que Dieu nous amène à des points de convergence de même? Ou est-ce qu'il nous amène à un pas, à une étape? On va parler d'étape dans un instant, mais Dieu a son processus qui est important. Nous, on veut tout le temps la finalité. Mais Dieu est intéressé au processus. Puis ça, c'est long, c'est minutieux. C'est plus, disons, détaillé que ce qu'on voudrait. Mais ne rejetons pas le processus de Dieu, aussi laborieux soit-il, parce qu'au bout du compte, les voix de Dieu ne sont pas nos voix, puis ses pensées ne sont pas nos pensées. Puis c'est son moyen désigné pour nous conduire à Christ, puis aussi pour former Christ en nous. Donc, par la foi, on dit, « Ok, Seigneur, j'accepte ton processus. » Donc, il y avait ce point-là qu'on voit, l'importance des détails. Il n'y avait rien qui était laissé au hasard, c'était important. Puis Dieu, dans notre vie aussi, c'est important. Chaque étape, tout ce qui nous fait passer, il y a un but avec ça. Okay? Mais il y avait aussi l'ampleur des détails. Puis là, je veux un moment de vérité, sois honnête. Suis-je le seul à trouver vraiment ardu de lire Exode 25 à 40? C'est dole, OK? Disons-le, là, tu sais... Et tu feras, tu sais, puis là, ça dit des mouchettes. Puis là, il y a des expressions, ah ouais, je savais même pas que ça existait, ce mot-là. Puis là, des si, puis des ça, comme je te dis. Puis même, là, tu sais, c'est dans les moindres détails, c'est fou. Puis là, avec ça, tel tissu, tu vois le problème. Puis du fin lin retors. Pas ça ressemble à quoi, mais il y a ça dans le tabernacle. Retors, pas ce que ça fait, c'est... Je connais pas trop c'est quoi du fin... Je sais c'est quoi du fin lin, mais retors, je sais pas ce que ça fait dans la vie. Mais c'est là. Et pourquoi encore là tant de détails? Ben, parce que, bien évidemment, ça aussi, ça nous pointe à Jésus. Mais ça nous montre aussi la grande quantité de choses. Tu sais, quand on parle, Jésus, là, tout ce qui a été dit sur Jésus, sur sa mission, sa personne dans l'Ancien Testament, c'était toute qu'une affaire. Là. Tout ça, ça pointait à ce que Jésus devait faire, devait venir pour faire, OK? Il y a des symboles, il y a des prophéties directes, il y a toutes sortes de choses. Et savez-vous quoi? C'est tout arrivé à la lettre. Et quand Jésus a dit « Tout est accompli », il a accompli tout ce qui était dit sur lui, absolument tout. Et il a complètement achevé l'œuvre, le dessein que Dieu avait pour lui. Et c'est quoi la clé de cet accomplissement? Puis là, c'est là que je veux donner mon application. Jésus, connaissez-vous l'expression « la kénose » Il y a une hérésie qui va là-dessus là, dans certains milieux où est-ce que ça l'applique ça à nous autres comme si on était divin et tout ça. Mais la kénose, c'est un mot biblique qui nous parle de Jésus qui est demeuré 100% Dieu, mais qui est devenu 100% humain. Puis la Bible dit que c'est dépouillé. C'est ça le mot kénose, c'est-à-dire qu'il a mis de côté des attributs divins, mais en demeurant Dieu, puis il s'est placé comme ça dans une position de totale dépendance à son Père. C'est pour ça que lui-même, à plusieurs reprises dans les Évangiles, il dit « Je fais rien de moi-même, je fais ce que le Père fait, puis ce qu'il me montre. » Okay? Puis Jésus est en totale dépendance à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a accompli absolument tout ce qui était dit sur lui. Bien, c'est pareil pour nous autres. Comme Jésus était en dépendance totale et absolue dans tous les aspects de toute sa vie, mais de la même manière pour nous, pour accomplir le plan que Dieu a pour nous autres, qui est un plan bienfaisant, qui est un plan libérateur, qui est un plan de vie, de victoire, Dieu nous appelle à y faire confiance pour dépendre de lui dans tous les aspects de toute notre vie. C'est pour ça qu'il y a un verset qui n'est pas très long, mais qui en dit long. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Puis Dieu, pour qu'il accomplisse son plan dans notre vie, puis la Bible nous dit si on est son enfant, on est son ouvrage. Donc, c'est lui qui fait comme il veut avec son ouvrage. Ben, le secret, c'est simplement d'accepter de dépendre de lui. de ne pas s'appuyer sur nos propres raisonnements, de le reconnaître dans toutes nos voies. Puis c'est lui qui va faire cette œuvre. Notre clé, la clé, c'est la dépendance, la soumission de la foi. Et qui d'ailleurs est l'antidote à l'orgueil incrédule qui nous pense, qui fait qu'on se pense plus sage que Dieu. Pensez-y, quand on rouspète, quand on n'est pas content de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, comme Israël dans le désert, finalement la plainte a fini sur le bureau de Dieu, puis c'est lui qui le prend personnel. Parce que c'est Dieu qui a envoyé ça, c'est Dieu qui a envoyé cette circonstance, cette personne, cette chose, pour son plan. Puis Dieu ne lui dit pas, ah, je vais l'enlever parce que tu trouves ça plat. Il dit, fais-moi confiance. Dépends-moi. Demeure soumis à moi. Puis tu vas voir, je vais accomplir mon plan. Donc, c'est la première chose qu'on voit dans cette conclusion du livre de l'Exode. L'accomplissement de sa demeure. La deuxième gloire, c'est la gloire de l'achèvement. Okay, ils ont tout accompli, puis là, c'était fini enfin. Donc, c'était laborieux, il y avait beaucoup de détails pour l'accomplir. Mais là, c'était fini. Verset 33, « Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau sur la porte. » Ça, c'est les derniers détails. « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. » Et donc, on peut dire que c'était achevé, mais c'était juste une étape dans le plan de Dieu. Mais il avait franchi cette étape. Puis évidemment, ce n'était pas fini, là, parce qu'on l'a dit déjà de plusieurs manières. Jésus est le vrai et le meilleur, le plus grand tabernacle. Il est aussi le plus vrai, le vrai et le plus grand Moïse et tout ça. Mais bon, il y a un verset dans le Nouveau Testament qui nous pointe un peu à ça. Ça nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. » Par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, le Seigneur marche beaucoup dans notre vie par étapes. Il nous amène à quelque chose, oups, on a franchi une étape. On n'est pas parvenu, on ne peut pas se péter les bretelles et dire « Ah, waouh, j'ai plus besoin de Dieu » comme un humoriste que je connais dit « Ah, là, j'ai plus besoin de Dieu, j'ai plus besoin de prier. » Non, Dieu nous a amené à une étape, mais c'est sûr, ce n'est pas la fin de l'histoire. Sauf que c'est quand même une étape. Un passage de vie. Hein? On a toutes sortes d'étapes dans la vie. Puis ça, c'est beau. Il y a un accomplissement là-dedans. Puis là, je veux vous parler un peu de ça parce que on peut avoir cette réjouissance, ce sentiment de travail accompli dans la vie chrétienne. Mais savez-vous, quand c'est authentique, puis c'est vrai, puis ça satisfait vraiment le cœur, c'est pas quand c'est nous qui le fait, mais quand on voit que c'est Dieu qui le fait. OK? Des fois, moi, je dis ça à des gens à qui je parle, puis tout ça. Ma récompense dans ma vie personnelle, dans mes relations avec les gens, quand je dis « Oh, wow! » Puis là, je suis content, puis là, j'ai comme un sentiment de travail accompli, c'est quand je dis « Oh, wow! » Ça, c'est Dieu qui fait ça, là. Ça, c'est clair que c'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu, là. Ça donne ce sentiment de travail accompli. Pourquoi? Parce que c'est évident que c'est pas moi, c'est pas avec ma sagesse, c'est pas avec mes moyens, ma chair, c'est Dieu. Et donc, Dieu fait franchir l'étape, Dieu amène à ce point de gloire en gloire. Puis évidemment, ça continue, là, tu sais, c'est jamais terminé jusqu'à temps qu'on soit au ciel. Mais ça, c'est une grande récompense, on doit se réjouir de ça. Quand on a certains achèvements comme ça, quand Dieu nous amène à passer une étape, on dit « Hey, merci Seigneur ». C'est toi qui as fait ça, que ce soit dans notre vie, dans celle autour de nous autres. Tu sais, justement, quand, mettons, on va donner un exemple évident, quand quelqu'un est sauvé, waouh, il y a un achèvement là-dedans, elle est sauvée pour l'éternité, cette étape est passée. On sait que c'est le début d'une belle aventure. Mais on peut se réjouir, c'est Dieu, le salut vient de l'Éternel. Bien, c'est vrai aussi pour la délivrance du péché dans notre vie. Des fois, il y a des choses qu'on peut être pris dans des raisonnements, dans des doutes, dans des forteresses. Puis Dieu nous amène enfin, il brise la puissance de cette chose, de ce mensonge dans notre vie. Merci Seigneur. On peut voir ça aussi dans la vie des gens autour de nous autres. C'est ça que je parle par achèvement. C'est un achèvement. Puis, c'est pas une déclaration d'indépendance, mais c'est une déclaration de reconnaissance. Dieu, merci. Puis comme dirait Samuel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, puis il n'a pas fini. Vous connaissez Philippiens 1:6? Je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Puis évidemment, ce verset-là nous parle du troisième temps de celui, c'est-à-dire quand on va être dans la présence de Dieu, qu'il n'y aura même plus de péché. OK? Ça va être super. Mais ça s'applique aussi à la puissance du péché. Dieu est capable de briser la puissance de certains péchés, de mensonges. Souvent, ça va ensemble, le péché puis le mensonge. Le mensonge nous garde dans des péchés forteresses. Mais Dieu, qui est la vérité, peut briser ces puissances-là. C'est pour ça que ça nous dit qu'on peut grandir dans la grâce et la connaissance de notre Dieu. On va découvrir la fidélité de Dieu, sa bonté qui nous porte à travers les différentes épreuves, les différentes choses de la vie. En fait, comme ici, il y avait un achèvement là, dans Exode, il avait fini, il avait fait l'attente, ben, évidemment, c'était partiel, c'était temporaire, ça préparait à ce qui devait venir, à la plénitude de ce qui est symbolisé ici, c'est-à-dire Jésus. Mais de la même manière, l'œuvre de Dieu dans notre vie, lorsqu'on a franchi une étape, ça nous prépare à ce que Dieu a par après. Dieu est un Dieu de continuité. Tu sais, c'est pas une fin en tant que telle. On peut dire, merci Seigneur, tu m'as fait arriver à cette étape. Mais c'est parce que tu as d'autres choses, tu as des nouveaux défis, tu as quelque chose qui est en avant pour moi. Et c'est ça l'idée d'être transformé de gloire en gloire. Il nous amène à un point qui va le glorifier, qui va le manifester dans notre vie. Puis une fois rendu là, OK, là, on va travailler, je vais me glorifier d'une autre façon dans ta vie à travers d'autres choses, d'autres aspects de mon œuvre dans ta vie. C'est ça, sa rédemption. Et là où des fois ça devient un peu tricky, comme dirait Bounicou, c'est quand on ne voit pas tout de suite, tout d'un coup. Et savez-vous, ça fait partie de la foi, ça. Connaissez-vous les « ceux-là », les « others » de Hébreux 11? Il y en a que tu as le nom, Moïse, puis il y en a que ça réfère à qui, puis les autres, c'est comme les ceux-là. C'est les nobody de Hébreux 11. Savez-vous quoi, dans l'histoire de l'Église, c'est la majorité. Hébreux 11, c'est pas beaucoup de monde, là, quand tu regardes l'histoire de la foi, là, OK? Mais ça dit tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ces saints de l'Ancien Testament, il y avait foi, espérance dans le Dieu dans lequel il y avait leur confiance, mais n'ont pas obtenu ce qu'ils recherchaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avant Jésus. Ils n'ont pas eu la promesse messianique devant leurs yeux. Ça a commencé avec Jean-Baptiste, ça, qui était le prédécesseur. Puis là, il a dit, voici l'agneau. C'était ça qu'ils attendaient, c'était Jésus, c'était le Rédempteur. Mais ils ne l'ont pas eu, ce désir-là. Lisons Ésaïe 53, le psaume, des psaumes qui soupirent après la délivrance, après le libérateur. Ils ont persévéré, même s'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient tant avoir. Donc, savez-vous quoi? Oui, il y a des achèvements dans notre vie, mais il y en a qui ne vont jamais arriver. Il y en a que ça, tu sais, on vit dans un monde incomplet puis qui est encore brisé par le péché, puis il y a des choses qu'on va attendre toute notre vie. Tu sais, de ne plus avoir jamais à lutter avec aucun péché, puis des tromperies, puis des doutes. Désolé de vous le dire un matin, là, si je pète votre bulle, là, mais ça ne va pas arriver. On est dans un monde où est-ce que ça fait partie de vivre ici-bas sur Terre. Ça fait partie de la condition adamique de notre monde. Même si on n'est plus en Adam, on est en Jésus, bon, on vit quand même dans un monde que les ravages de la mort. OK? Donc, mais on peut se réjouir. Pourquoi? Et là, c'est vraiment important ce que je vais vous dire là. On n'a pas un achèvement nécessairement circonstanciel, puis comme je vous dis, on va lutter tout le reste de notre vie avec le péché. Mais si Dieu est ma récompense, ça c'est mon achèvement. Quand je trouve Dieu dans la lutte avec le péché, dans les circonstances, dans les épreuves, ça, c'est une récompense réelle. C'en est un achèvement. Je trouve Dieu dans ce que je vis. Puis ça, un saint de l'Ancien Testament l'a exprimé, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Puis vous connaissez-vous aussi Lamentation 3, 24. Là, je vous ai cité psaume 73, 25, là, 28. Puis Lamentation 3, 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et donc, on peut toujours, même si tout n'est pas achevé, même s'il y a bien des choses qui vont rester temporaires ou qui vont se répéter pour nous amener à dépendre de Dieu, on peut toujours se réjouir en l'Éternel, notre Dieu. Ça m'amène à la troisième gloire de sa demeure, la plénitude de sa demeure. Et ça, on a ça dans les versets 34 à 38, où est-ce qu'on voit que la gloire de l'Éternel, elle remplissait le tabernacle au point que Moïse n'était plus capable de rentrer. Première chose, on va voir quelque chose d'autre par la suite, mais évidemment, on peut faire un parallèle parce que qu'est-ce que la Bible nous dit sur Jésus? Qu'on a tout pleinement en lui, qu'on peut être rempli du Saint-Esprit, rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, cette plénitude qui était dans le tabernacle terrestre, nous qui sommes le temple de Dieu en esprit, on peut aussi vivre cette plénitude. OK? Donc, il y a un parallèle qui est évident, tu sais, soyez remplis de l'Esprit. La plénitude de Dieu, et c'est drôle parce qu'ici, ça l'empêchait de Moïse d'entrer. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. C'est drôle, hein? Ça dit, si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ces deux choses sont opposées entre elles afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Quand Dieu me remplit, les désirs que je peux avoir de moi, de ma chair, vont être empêchés. Donc, ça m'amène à deux leçons sur cette plénitude glorieuse. La première, j'appelle ça la plénitude expulsante de la gloire de Dieu. La plénitude expulsante. Il y a même, Christina, c'est-tu Ian Thomas qui parle du expulsory power of the life of Christ? Non, c'est un autre. En tout cas, c'est quelqu'un qui a écrit là-dessus, qui a un petit livre, un livret. La puissance expulsante de la vie de Jésus. Quand la vie de Jésus prend, ou l'Esprit de Jésus en moi, là, la plénitude de l'Esprit, prend toute la place, quand cette plénitude, elle est là, elle va expulser la mort, le péché et toutes les autres affaires. Ça veut dire que, au lieu de lutter à vouloir régimenter notre vie et avoir se débarrasser du mal, notre souci devrait plutôt laisser Dieu tout prendre la place, puis ça va chasser le mal. C'est pas mal mieux, je ne sais pas pour vous, mais au lieu de se battre contre des dragons, là, de juste inviter Dieu et dire « Dieu prend toute la place », c'est pas mal moins fatigant, puis c'est pas mal plus bénéfique, n'est-ce pas? Dieu prend toute la place! Puis c'est ça la puissance expulsante de la vie de Dieu. Donc, pour revenir à des exemples comme je disais tantôt, tu sais, quand c'est plate, c'est difficile, des choses que... Voyons, le processus de Dieu est donc bien long. Dieu, là, c'est précisément pour ça qu'il permet des bouts laborieux, pénibles et difficiles, pour qu'on arrive à dire, OK, Dieu prend toute la place. Vas-y, c'est toi qui décides. C'est là qu'est la bénédiction spéciale de sa vie expulsante, parce que au lieu d'avoir tout le fardeau sur nos épaules, à tout vouloir essayer de se débarrasser du mal puis de rechercher le bien, bien Dieu, quand il prend toute la place, tout le bien est là, puis lui-même, chasse le mal. C'est vraiment super. C'est Romains 8 au lieu de Romains 7. Moi, j'aime mieux Romains 8 que Romains 7. Là. Romains 7, c'est fatigant. Là. Puis ça finit avec un misérable. Misérable que je suis! Mais il pose la bonne question. Qui me délivrera? Oui, c'est Jésus. C'est celui qui prend toute la place. Donc, c'est ça la plénitude expulsante de sa vie. Mais on regarde aussi, parce que la toute fin, puis on va les relire ces versets-là, ça dit au verset 36, « Aussi longtemps que durant leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. » Donc cette nuée de gloire, non seulement elle expulsait, il y a une puissance expulsante, mais aussi c'est une puissante, une plénitude dirigeante. Parce que ça dit que quand elle se levait, il se levait. Quand elle ne bougeait pas, il restait là. Dieu les dirigeait par sa gloire. Le fait qu'il était là avec eux autres était la manière de les diriger. Et ça aussi, ça nous pointe à la puissance directrice de la vie de Dieu dans ses enfants. Écoutez ce que ça nous dit dans Romains 8, 12. « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y a un principe là-dedans que l'idée, lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai la plénitude de l'Esprit, il me conduit, il me dirige. C'est pas juste une présence passive de même, oh, je suis rempli, puis... Non, il me remplit de ses pensées, de ses motivations, de sa volonté, sa pensée, ses émotions. OK? Il me remplit, puis... Donc, non seulement ça l'expulse le mal, mais ça me dirige dans toutes ses voies. C'est vraiment une formule gagnante, là. Un matin, j'ai une formule. Moi, je vous prêche des formules. C'est Jésus en vous. C'est ça, la formule. Puis d'ailleurs, aussi, dans Galates 5, 18, ça dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Tu n'as pas besoin de te régimenter comme ça, puis d'essayer d'expulser le mal. Puis... Non, parce que quand tu es conduit par l'Esprit, il va te diriger dans tout le chemin de la vie. Et cette plénitude, évidemment, nous parle de la vie abondante, comme Jésus en parle dans Jean 10, 10, la vie débordante. Et là, je vais dire quelque chose qu'on a parlé hier, puis ça a même ressorti dans ta prière, Amélie, mais la vie chrétienne, puis là, je peux vous poser la question, tiens, je vous pose une question au piège. Ceux qui savent la réponse, vous n'avez pas le droit de répondre. Sinon, je vous enlève vos chocolats. Okay? Est-ce que la vie chrétienne, c'est d'abord une question de se donner à Dieu ou de recevoir de Dieu? La vie chrétienne, c'est d'abord recevoir de Dieu parce qu'on est appelé à donner de l'abondance de ce qu'on a reçu. Ça, c'est fondamental. C'est ça, la nouvelle alliance. C'est Dieu qui nous a tout donné pleinement en Christ pour qu'on en déborde sur les autres. Puis, juste pour vous assurer que je n'ai pas inventé ça ce matin, que vous n'arrivez pas avec des nouvelles doctrines, Jésus lui-même, dans la belle image de la vigne puis les branches, là, dans Jean 15, là, c'est exactement ça ce qu'il dit. Il dit, moi, là, je suis la racine nourricière, vous êtes des branches, puis vous portez du fruit. Ça veut dire quoi, ça? En gros, ça veut dire que la branche, elle reçoit la sève, elle est faite pour recevoir de Dieu afin de donner aux autres. Parce que la branche, elle ne profite pas de son fruit, elle donne. Beaucoup de chrétiens sont épuisés, sont découragés, sont tristes parce qu'ils vivent pour se donner à Dieu puis espèrent un peu recevoir de leurs frères et sœurs dans le Seigneur. Puis ça, c'est décevant parce que quoi, on ne va jamais avoir selon la mesure de ce que notre cœur aspire. On est béni par nos frères et sœurs, mais on ne peut jamais avoir l'infini que notre cœur a besoin. Non, la vie chrétienne, c'est recevoir de la source d'eau vive et intarissable qui est Dieu, pour déborder sur les autres. Ça, mes amis, là, c'est très simple, mais fondamental, super important. Et c'est comme ça que Dieu, il nous permet de vivre la vie chrétienne par la foi. C'est comme ça qu'il va nous diriger. Il va nous diriger comme ça, lorsqu'on est rempli par le Saint-Esprit, à vivre cela. Ou est-ce qu'il nous dirige dans des bouts de désertiques pour qu'on dépende de lui, qui est notre source de vie? Puis il nous amène sur les tops de montagne, puis les vallées verdoyantes, pour qu'on dépende encore de lui. Puis c'est toujours le même principe. On est fait pour recevoir afin de pouvoir donner. Et donc, en conclusion ce matin, le tabernacle, la tente d'assignation dans le livre d'Exode. Évidemment, là, je pense que vous le savez depuis qu'on a commencé le message, c'est une ombre de Jésus-Christ. Okay. Jésus en est l'accomplissement. C'était prophétique. Hein, Jésus lui-même étant celui qui a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Mais c'est aussi une image de nous, ses enfants, ou son corps, parce que nous sommes le temple de Dieu en esprit. J'ai l'impression qu'il est néo-testamentaire, ça. Nous sommes son temple. C'est quand ça dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit », savez-vous c'est quoi le mot que ça prend? Il y avait deux mots pour temple. Il y en a un qui était tout l'ensemble du temple, puis l'autre c'était le Saint des Saints. Devinez quel mot pour référer à nous autres, le Saint des Saints, là où Dieu habite. Parce qu'on est l'habitation de Dieu en esprit, individuellement puis comme Église. Et donc, je répète un verset que je vous ai dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, Éphésiens 2, 10. Mais si on est son ouvrage, vivons en conséquence par la foi dans une telle œuvre, dans le fond, dans une sainteté qui s'y est, qui est convenable, à être vêtu d'un tel honneur. Dieu a déclaré que nous sommes son habitation en esprit. Et le but de Dieu avec le temple, c'était de demeurer avec son peuple. Bien, de la même manière, hein, Jésus a dit, et je vous le lis, c'est dans Jean 15, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous sommes appelés à demeurer, à rester dans cet état de dépendance à Dieu, de lui faire confiance, se confier en lui par la foi dans ce qu'il nous permet dans nos vies. Puis comme ça, on peut le manifester. Comme ici, sa gloire s'est manifestée. Lorsqu'on demeure en lui, nous le manifestons. C'est lui qui va être mis de l'avant dans notre vie. Et donc, c'est ma question. Est-ce que la réalité de Dieu est manifestée dans ta vie? Ou pour le dire autrement, est-ce que le fruit de sa vie, le fruit de l'esprit, se voit? Quand quelqu'un te voit, est-ce qu'il voit plus de Jésus ou il voit plus de toi? Et je ne suis pas en train de vous dire « essayez plus fort » puis de tout vous shamer, que vous faites donc bien dur. Qui est suffisant pour ces choses? Personne ne l'est. Mais Christ vit en nous. Et tout ce qu'il nous amène dans notre vie, c'est dans le but de lui se manifester. Tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Et là, je vais vous dire quelque chose là, que j'ai déjà dit puis que je pense que ça vaut la peine d'être répété. Je parlais du processus tantôt. Pour que Dieu se manifeste de même, il faut que moi j'accepte de m'abaisser. Pour que lui soit élevé puis mis de l'avant, il faut que moi, je m'abaisse. Ou autrement dit, pour que Dieu se glorifie, il va me répéter cette vérité qu'il dit à plusieurs endroits dans la Bible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Ah, je veux beaucoup de Dieu dans ma vie. Ça va te coûter de t'humilier. Ça va te coûter d'avoir les affaires comme tu veux pas. Ça va te coûter de souffrir. Fait que j'ai pas l'évangile de prospérité tout à fait ce matin. Mais j'ai le Dieu de prospérité qui est tel. Ça, ça vaut la peine. Si Dieu se manifeste, puis Dieu, là, pas des affaires de gamique humaine, là, ça vaut la peine de s'humilier. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie. Quand on est un enfant de Dieu, puis qu'on voit le surnaturel de Dieu dans notre vie, wow! Les circonstances, c'est secondaire, parce qu'il est notre trésor, il est celui qui est la joie de nos cœurs, notre paix, en fait, notre tout, tout ce dont on a besoin. Et évidemment, je veux toujours amener un appel à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur sauveur personnel. On ne peut pas manifester la présence de Dieu dans notre vie tant qu'on ne l'a pas reçu. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, c'est par la foi en Jésus, en recevant son sacrifice parfait, en le recevant lui comme le sacrifice parfait, Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est à lui que j'aimerais qu'on termine ensemble en priant. Et si vous voulez prier par la suite, vous pourrez le faire. Merci Seigneur que tu es celui qui est venu à nous et qui est encore là au milieu de nous et qui sauve, qui délivre du péché, de la pénalité du péché, puis tu délivres aussi ton peuple de la puissance du péché. Merci Seigneur que tu es le sauveur parfait. On l'a chanté, tu es le bon berger. Tu sais nous conduire dans des verts pâturages. Merci que dans ton plan, il y a un processus. Des fois c'est laborieux, des fois c'est long, des fois ça finit plus de finir. Mais Seigneur, c'est toujours toi qui es au contrôle et qui est bon dans toutes ces choses. Jamais il y a une journée dans l'histoire de tout l'univers où est-ce que tu n'as pas été bon. Tu es que bon et toujours bon. On veut le croire de tout cœur, l'accepter, même quand ça fait mal, même quand on ne comprend pas, même quand il semble ou qu'on ressent les choses comme si tu n'étais pas bon. C'est un mensonge, parce que tu es bon. Seigneur, que chacun ici, on puisse se confier dans cette bonté. Et qu'aussi, ceux qui ne te connaissent pas voient que ta bonté les pousse à la repentance, à se détourner de leur confiance en eux-mêmes et mettre toute leur foi en Jésus et lui seul. Seigneur, on t'invoque au nom de Jésus. Amen.